Juin 1941. Je n'oublierai pas cette date. J'avais 16 ans. La guerre, elle devait un peu plus tard me devenir très proche. Alors, je crois bien qu'elle ne nous était pas beaucoup plus que le bruit d'un orage lointain. Les premiers orages intérieurs nous touchaient plus. Et la poésie qui s'en nourrit. Quelqu'un me téléphona pour me signaler que le prix Rambert, un prix littéraire décerné tous les 3 ans depuis le début du siècle, par une société d'étudiants lausannois et qui avait couronné notamment Saint-Grillat, Gillard, Denis de Rougemont, allait être décerné au cours d'une séance publique à Gustave Roux. Je ne connaissais même pas ce nom. C'était à Ramu, président du jury, qu'il incombait de présenter le lauréat. J'eus le désir d'entendre cet écrivain que j'admirais, dont j'avais lu toute l'œuvre et que je n'avais jamais fait qu'apercevoir dans la rue. Je me rendis donc, non sans timidité, à cette cérémonie. Il y avait, me semble-t-il, beaucoup de monde. Tout au fond de la salle, des groupes chaleureux d'étudiants coiffés de la casquette blanche, certains portant même un drapeau, comme pour une fête. Je me souviens d'avoir remarqué surtout l'arrivée d'un homme mince, à petite tête d'oiseau, vêtu avec une élégante négligence, le revers orné d'un œillet rose, le geste vif, l'œil gai. C'était Mermot, l'éditeur de tout ce que le pays comptait de vrais écrivains. Il se laissa tomber plus qu'il ne s'assit dans un grand fauteuil derrière une longue table où se trouvait déjà Élie Gagnebin, géologue, incomparable lecteur de maintes représentations de l'histoire du soldat. Le président de Zofingue, c'était le nom de la société d'étudiants, le lauréat et, enfin, Ramu. Celui-ci avait alors un peu plus de 60 ans. Son éloge, plein de simplicité, de fermeté amicale, mais peut-être un peu distant tout de même, parce que l'œuvre, s'il l'admirait, ne devait pas lui être proche en profondeur. Ne me frappa pas beaucoup, ou j'oubliais très vite l'impression qu'il m'avait faite, parce que Roux avait commencé à parler. Il prononça d'abord de ces paroles étouffées et comme ornées par la timidité, la prudence, un léger humour, qui conviennent à ce genre de remerciements et qui sont aussi une forme de pudeur quant à l'essentiel. Puis il entreprit de rappeler l'une d'entre ses nombreuses et longues promenades qui ont joué un si grand rôle dans sa vie solitaire. Je me souviens que déjà, je n'étais plus dans la salle, que je suivais le pas enchanté des mots dans les vergers brûlés comme ceux de Rimbaud. J'avais suivi ce vallon de la Venoge, qui est pourtant une chose très aimée, et regardant la double pente des prés ras et roussis comme ces toiles abîmées de poussins où le brun des dessous transparaît, sans cesse me revenait aux lèvres la parole de Rimbaud. J'aimais le désert, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. J'avais salué mon ami le meunier dans son moulin d'architecture si compacte et si divisé qu'on aurait dit de loin une grande rose grise. J'avançais vraiment. Moins comme un vagabond ou un promeneur qu'à la façon du pèlerin, pour qui la marche est une tâche sacrée, jusqu'à cette nuit qui ne sera qu'un froissement de roseaux, une immense bataille d'étoiles au-dessus du lac endormi. Et, la nuit traversée, jusqu'à l'apparition de cette première alouette annonçant le réveil d'un monde aussi pur que son chant. L'intensité avec laquelle m'est encore présente aujourd'hui le souvenir de cette marche et du seuil où elle devait aboutir, s'arrêter, de cette espèce d'arrêt qui est en réalité un commencement, me permettrait presque de dater de cette soirée, d'autant plus intensément vécue peut-être qu'inespérée, l'éveil de ma propre conscience poétique. Je ne devais pas tarder à lire les quelques minces livres que le prix Rambert avait ainsi distingués. Adieu, feuillet, petit traité de la marche en plaine, essai pour un paradis, pour un moissonneur. Bientôt rencontrer leur auteur et me lier avec lui d'une amitié sereine, imprégnée de reconnaissance et de respect.